Bonjour à toutes et à tous, ici Jasmine et Marie sur Sony Vibe. Et aujourd'hui, nous accueillons l'écrivain dont l'œuvre Darwin a séduit l'année dernière les élèves de première de la spécialité HLP. J'ai nommé Colin Niel. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donc l'année dernière, dans le cadre du prix Carbet des lycéens, votre livre Darwin a su charmer les élèves de la spécialité HLP qui ont ensuite choisi votre roman et l'ont défendu lors d'une sélection régionale.
Avant de commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre venue en Guadeloupe?
Oui, je suis venu, j'ai appris que j'avais ce prix donc l'année dernière. À l'époque, c'était compliqué pour venir, on a eu un petit peu de mal à trouver une date, etc. Mais c'est vrai que j'avais vraiment à cœur de venir à la rencontre des lycéens. C'est un prix qui, moi, m'a énormément touché. D'abord parce que c'est un prix de lycéens et je sais comment sont les lecteurs lycéens, c'est-à-dire qu'ils sont souvent assez catégoriques dans leurs choix. C'est des choix qui sont vraiment dictés par le cœur. Enfin, en tout cas, j'ai toujours eu cette impression-là. Donc, c'est un prix qui me touche particulièrement. Et puis, c'est aussi un prix de la Caraïbe. Donc, ça a un sens tout particulier pour moi, mon livre se déroulant en Guyane. Donc, d'avoir cette reconnaissance, ça me touche énormément. Et donc j'avais vraiment envie de venir à la rencontre des lycéens et c'est particulièrement émouvant pour moi parce que j'ai habité en Guadeloupe plusieurs années, ça fait 10 ans que je suis pas venu en Guadeloupe, c'est ici que mon fils est né, donc je suis à la fois très heureux et très ému d'être ici cette semaine.
D'accord, mais vous êtes justement venu à l'idée d'écrire ce livre et quel est votre rapport justement que vous entreprenez avec la Guyane qui est le lieu où se déroule la plupart de vos romans?
Moi, je suis parti à en Guyane après mes études, disons, pour découvrir un endroit, honnêtement, sur lequel je connaissais assez peu. J'avais un petit fantasme autour de la forêt amazonienne, mais qui était quand même assez limité. Et c'est vrai que ma rencontre avec ce territoire a été un choc vraiment très, très fort. J'ai été énormément marqué par mon passage en Guyane. J'ai découvert, bien sûr, cette forêt que je m'attendais à rencontrer avec sa richesse qui est infinie. Mais j'ai surtout rencontré, et ça, c'était quelque chose que je ne soupçonnais pas du tout, la richesse culturelle, c'est-à-dire à quel point les gens qui vivent sur ce territoire sont riches d'histoire, de culture immense, quoi. Et ça, ça a été vraiment une découverte totale. Donc j'ai été très marqué par mon passage là-bas. J'y ai vécu pendant 6 années. Et ça fait longtemps que je suis parti, puisque j'ai quitté la Guyane en 2007, pour des raisons familiales. Et je n'ai jamais cessé d'y aller. Quoi. Tous les ans, je suis retourné là-bas. À chaque fois qu'il se passe quelques mois sans que je mette le pied en Guyane, je ressens un manque très fort. Donc c'est vrai que j'ai un lien très fort à ce pays, même si j'ai conscience que j'en suis pas issu, je suis pas guyanais, j'ai pas grandi là-bas, mais c'est un endroit qui est très important pour moi. Et oui, j'ai pas tous mes livres, mais une bonne partie de mes livres se déroule là-bas. J'essaye, disons, à chaque fois de faire ça le mieux possible, d'essayer de rendre justice à ce pays dont on entend, en tout cas dans l'Hexagone, très très peu parler et souvent plutôt en mal. Et j'ai toujours à cœur d'essayer d'être honnête quand je parle de cet endroit-là. Ouais.
Pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous faire un court résumé de votre roman Darwin avec vos propres mots et nous parler un peu plus du processus d'écriture qui en est découlé?
Oui, alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais peut-être pour camper un peu le décor, Darwin, c'est un roman qui se déroule en Guyane française, même si je ne le dis pas toujours clairement dans le livre, mais en tout cas, c'est clairement le territoire que j'ai en tête. C'est l'histoire d'un enfant, Darwin, qui vit dans un quartier en périphérie de la ville, qui est un quartier qui a tout d'un bidonville, qui est un quartier qui a été gagné sur la forêt amazonienne à coup de défrichement. Et peut-être sans raconter vraiment l'histoire, je crois que ce qui est important, c'est que Darwin, pour moi, c'est surtout l'histoire d'un enfant qui est déchiré entre ses deux amours, quoi, en fait, qui est déchiré entre l'amour qu'il éprouve pour sa mère, pour laquelle il a une sorte d'admiration et d'amour inconditionnel. Pour lui, sa mère, c'est la plus belle, la plus intelligente, la plus courageuse de toutes les femmes du quartier. Et l'amour qu'il éprouve pour la forêt amazonienne, avec laquelle il entretient une relation très intime, presque magique, et vers laquelle il ne peut pas s'empêcher d'être attiré et de retourner sans cesse. Donc je crois que le nœud de l'histoire, c'est ça, il me semble.
Justement, comme vous disiez, donc les dimensions écologiques, mais aussi psychologiques, sont très marquées dans Darwin. Est-ce que ces deux dimensions se sont imposées ensemble ou séparément lors de l'écriture? Et est-ce que ce sont des thèmes qui sont récurrents dans vos romans?
Oui, je crois. Écologie, je ne sais pas, mais en tout cas, la question du rapport que nous, les humains, on entretient aux milieux naturels dans lesquels on vit, les rapports qu'on entretient avec les autres espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, qui nous entourent, ça, c'est quelque chose qui m'importe et qui, je crois, est assez présent dans beaucoup de mes livres. Mais ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les rapports entre les humains entre eux, parce qu'en fait, un roman, ça parle quand même avant tout des gens, je crois. Et donc cette question de la maternité, c'est-à-dire du rapport qu'entretient cet enfant avec sa mère autour de cette relation autour de laquelle tourne toute l'histoire, elle est essentielle. Et je crois qu'elle est effectivement présente dans pas mal de mes livres, parce qu'il me semble que c'est une des questions les plus importantes aujourd'hui, quoi. Comment on élève nos enfants, qu'est-ce qu'on leur transmet, comment on les accompagne dans les choix qu'ils veulent faire, et comment on fait surtout dans ce roman-là pour élever un enfant quand il nous échappe et quand toutes ses aspirations sont à l'opposé de ce qui nous paraît le plus important, quoi. Et c'est, je crois, ce qui arrive à cet enfant et à sa mère. Ouais.
Dans Darwin, la légende du masque Lily est très présente. Pourquoi avoir choisi cette légende comme source d'inspiration et de quoi parle-t-elle?
Alors, le masque Lily, c'est une créature mythologique en Guyane. On dit que le masque Lily est un personnage qui se présente, enfin, voilà, qu'un enfant ou un être de petite taille qui, dit-on, vivrait dans la forêt amazonienne et qui aurait cette particularité physique d'avoir les pieds à l'envers, les pieds tournés vers l'arrière du corps. On raconte, enfin, toute personne qui s'aventure en forêt a toujours la crainte de croiser la route du masque Lily, parce qu'on dit que le masque Lily s'amuse à perdre les gens dans la forêt. Donc c'est une légende dont on a tous, enfin tous ceux qui ont vécu en Guyane ont entendu parler. On a tous des récits de personnes qui sont persuadées de l'avoir sinon vu, au moins entendu ou senti ou qui ont senti sa présence. Moi, c'est une histoire qui m'a toujours plu et j'avais vraiment envie d'en parler, parce que je trouve que c'est une légende qui permet de parler des deux choses dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire à la fois de la question de l'enfance et de celle du rapport des humains à la forêt, quoi. Donc je trouvais que c'était, à travers cette créature, j'ouvrais le champ sur tout ce qui était important pour moi, en fait.
Et au fil de la lecture, par exemple, on s'interroge et on reconsidère souvent ce qu'on pourrait considérer ou percevoir comme monstrueux. Est-ce que, en fait, c'était votre intention en écrivant ce roman?
Oui. Enfin, entre autres, ça fait partie des choses dont je voulais parler. C'est cette question de l'image qu'on peut avoir des autres, l'image qu'on peut se faire des personnes qui nous entourent et qui sont peut-être un petit peu différentes des autres. Et c'est vrai que j'aimais cette idée que le regard que les adultes portent sur cet enfant, Darwin, puisse être extrêmement différent. C'est-à-dire que donc Darwin est un enfant qui est très attiré par la forêt, qui passe son temps à y aller, qui est toujours qui a toujours un peu de terre sous les ongles, qui gratte la terre, qui ramène des petits bouts de trucs de la forêt en permanence. Et je crois que pour sa mère, Yolanda, elle élève son fils, mais elle a élevé aussi sa fille dans ce bidonville. Elle, ce dont elle rêve pour ses enfants, l'idéal, c'est une ascension sociale. C'est quoi? C'est qu'ils trouvent un travail dans un bureau climatisé en centre-ville, quoi. Pour elle, c'est ça la réussite sociale et l'idéal et ce dont elle rêve pour ses enfants. Donc effectivement, elle perçoit son fils comme un monstre, en fait, d'une certaine manière. Il la ramène, mais je crois que c'est parce que en permanence il la ramène à sa propre condition et à tout ce qu'elle essaye de fuir. Et dans cette relation entre cette mère et son enfant, Il y a un autre personnage qui intervient, qui est Mathurine, qui, elle, est éducatrice de la protection de l'enfance. Et elle a une culture qui est très différente de celle de Yolanda. Mathurine est passionnée par la forêt amazonienne, c'est une naturaliste. Elle aime s'y perdre, elle aime y aller. Donc forcément, quand elle voit cet enfant, elle a un regard extrêmement différent. Elle le voit d'une toute autre manière. Et j'aimais cette idée que Mathurine puisse voir cet enfant comme un gamin merveilleux. Elle le dit d'ailleurs à sa mère, il est merveilleux votre enfant, alors que sa propre mère, elle le voit comme un monstre, quoi. Et je crois que cette question de la monstruosité, elle est très relative, quoi. Ça dépend aussi de quelles sont nos propres références culturelles, quelle est notre situation sociale. Tout cela influence beaucoup le regard qu'on porte sur les autres, en fait, quoi.
En quoi peut-on considérer Darwin comme un roman policier ?
Alors ça, j'en sais rien du tout. Moi, quand j'écris un livre, je ne réfléchis pas du tout en ces termes-là. Les premiers romans que j'ai écrits étaient clairement des romans policiers avec une enquête, peut-être de manière un peu plus classique. Mais aujourd'hui, quand j'imagine un roman, voilà, j'ai une histoire qui se construit dans ma tête, que j'ai envie de raconter. Et je ne me pose pas du tout cette question du genre, de savoir est-ce qu'on est sur du roman policier, du thriller, du fantastique. Enfin, moi, ces questions-là, elles ne m'intéressent pas trop. Pour moi, c'est presque plus des questions qui se posent après, une fois que le livre est terminé, avec mon éditrice, sur la manière de présenter le livre. C'est des questions qui sont presque plus d'ordre marketing et commercial qu'artistique, en fait, quoi. Donc, Darwin a reçu le Grand Prix de littérature policière. J'étais vraiment honoré, extrêmement content de le recevoir. Mais bizarrement, je crois que c'est un des moins policiers des livres que j'ai écrits, quoi. Donc c'est un peu paradoxal, quoi.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi une fin qu'on peut considérer comme ouverte pour Darwin ?
Je crois pas qu'elle soit si ouverte que ça, cette fin. Mais ça se termine, je crois. C'est difficile d'en parler parce qu'on va pas révéler ça à ceux qui nous écoutent. Mais je crois que cette histoire se termine vraiment comme elle devait se terminer. Il y a des romans sur lesquels je m'interroge beaucoup sur la fin, comment je vais terminer, etc. Sur Darwin, j'ai eu aucun doute. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était évident que ça devait se terminer de cette manière, quoi.
Après Darwin, vous avez écrit un roman intitulé Wallace. Comment ce nouveau roman s'inscrit-il dans la continuité de Darwin et pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce livre ?
Oui. Au départ, quand j'ai écrit Darwin, je pensais que ça allait être ce qu'on appelle en littérature un one-shot, quoi. C'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y aurait de suite, je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là. Mais c'est un roman qui parle beaucoup de la maternité. Et à la fin du roman, je ne vais pas révéler toute la fin, mais il y a quand même quelque chose d'important à la fin du livre, c'est qu'on a ce personnage de Mathurine, qui est éducatrice de la protection de l'enfance, qui a passé sa vie à s'occuper des enfants des autres, à rencontrer des mères, à rencontrer des parents souvent maltraitants, qui aussi a rêvé de redevenir elle-même maman sans y arriver, donc qui s'est engagée dans toutes sortes de procédures pour réussir à devenir maman, quoi. Et à la fin du livre, Mathurine est enceinte, quoi. Donc c'est comme ça que termine le livre. Ça ne révèle pas toute la fin, mais c'est un des éléments importants. Et quand j'ai écrit cette fin, je me suis dit, mais comment ça va se passer, sa propre maternité, quoi. Vraiment, la question est arrivée en terminant le livre. Et j'ai vraiment eu envie de continuer et de me dire comment ça allait se passer vraiment entre elle et son propre enfant. Je pressentais qu'avec tout ce passif lié à son travail, tout ce passif lié à son désir d'enfant extrêmement fort... allait influer sur la manière dont elle allait s'occuper de cet enfant et que peut-être elle l'avait tellement désiré que ça allait pas se passer aussi bien qu'elle l'avait espéré, quoi. Donc voilà, c'est clairement dans la continuité. L'histoire se déroule 10 ans après entre Mathurine et son propre fils qui s'appelle Wallace.
Eh ben, merci beaucoup pour votre venue, Monsieur Niel. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de prix Carbet des lycéens, mais pour nous, cela a été un véritable plaisir de découvrir des œuvres contemporaines de la culture caribéenne.
Merci encore et à bientôt sur Sony Vibes.
Merci beaucoup.